Alors, gloire à Dieu. Notre thème de ce matin, c'est Jésus est Seigneur. Seigneur, ça veut dire chef. Voilà, celui qui domine, celui qui règne sur tout. Et nous allons parler des choses d'une manière antichronologique. Donc, nous allons commencer par la fin. Montrer comment, à la fin, il va démontrer sa seigneurie et descendre jusque dans les évangiles. Nous commençons donc dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, 11 à 16. Apocalypse 19, 11 à 16, où il démontre, quand il vient, il démontre sa seigneurie en venant en gloire sur un cheval, et c'est là qu'il va soumettre toutes les forces des ténèbres et les envoyer dans la perdition. Nous lisons donc Apocalypse 19, 11 à 16.
Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blonds, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Amen, amen. Voilà, donc il avait sur son vêtement sur sa cuisse, et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà, donc c'est comme ça que tout se finira. Jésus-Christ viendra du ciel avec ses anges pour clôturer la saison terrestre. Donc tout ce qui est sur terre, les combats que nous connaissons, les souffrances, les maladies, la puissance du monde des démons, mais Jésus va finir tout cela ce jour-là quand il viendra donc assis sur un cheval et ce sera écrit sur son vêtement « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». C'est le vrai chef. Donc, roi des rois, il y a des rois sur terre, il y a des présidents, mais Jésus montrera que c'est lui le vrai chef, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà notre thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et nous voulons d'abord parler de ce qu'on entend par Dieu. Donc, Dieu, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Il y en a qui ne croient pas. Nous n'allons même pas discuter de ce problème-là, parce que c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté que de ne pas croire en Dieu, tellement c'est évident. D'ailleurs, la Bible commence par la phrase suivante, « Au commencement, Dieu créa ». Donc, la Bible commence par expliquer la création, mais pas Dieu lui-même, puisque c'est considéré comme évident que Dieu existe quand on voit les milliards d'étoiles, de galaxies, quand on voit la beauté de l'univers, la beauté de la nature, on voit la complexité de l'atome, la complexité des molécules, quand on voit tout ça, on sait que Dieu existe. C'est évident. Et surtout quand nous avons vu la gloire de Dieu à travers son fils Jésus, nous savons qu'il existe. Et même dans notre conscience, il est écrit dans la Bible que dans notre conscience, il a été déposé la notion d'éternité, la notion de Dieu, c'est dans la conscience de tout homme. C'est juste que les hommes, dans leur orgueil, dans leur rébellion, ils refusent ça. C'est ce que nous explique maintenant la Bible. Donc, que Dieu existe, c'est évident. C'est évident. Maintenant, nous voulons savoir Mais qui est le chef dans tout ça? Parce que ce Dieu-là est présenté de plusieurs manières par les uns, par les autres. Il y en a qui pensent que c'est la science, il y en a qui pensent que c'est Mère Nature, il y en a qui pensent que c'est Bouddha, il y en a qui pensent que c'est Mohamed. Donc tout le monde qui pense que c'est Allah, tout le monde a sa présentation de Dieu. Maintenant, Dieu, lui, il dit non, non, ma présentation à moi, c'est moi-même. Quelqu'un d'autre ne peut pas me représenter. Je vais moi-même venir, c'est moi-même qui serai mon représentant. C'est ce que Dieu nous montre dans la Bible. Il vient par son fils Jésus. Donc Jésus est Dieu fait homme, il est venu en homme. Et c'est là que notre position d'aujourd'hui, il va montrer à la fin qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, d'une manière claire. Pour le moment, ce n'est pas 100% clair, mais c'est déjà clair. Mais à un moment donné, personne ne pourra échapper à la vision du Fils de Dieu manifestée en gloire. C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse 19. Donc, quel est le Seigneur des Seigneurs? C'est Jésus-Christ. C'est ce que vont nous présenter tous les textes que nous allons lire. Il ne s'agit pas de Bouddha, il ne s'agit pas des ancêtres, c'est Jésus. Et si aujourd'hui, sa seigneurie totale est encore cachée, un jour, elle sera visible totalement, c'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 19. Alors, nous allons lire dans Apocalypse 5. Dans Apocalypse chapitre 5, il nous est présenté Jésus-Christ qui triomphe du vrai problème de l'univers, du vrai problème de l'humanité. Le vrai problème de l'univers, ce ne sont pas les démons, ni les humains, ni quoi que ce soit. Le vrai problème de l'univers, c'est le mal, c'est le péché. C'est le fait que l'homme a péché, c'est ça qui est le vrai problème de l'univers. Puisque Dieu n'accepte pas le mal, il n'accepte pas le péché. À partir de ce moment-là, son jugement a été décrété pour l'univers, pour tout, sauf ses anges à lui, son jugement a été décrété. C'est ça le vrai problème de l'univers, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu est plus dangereuse, plus puissante que les forces des ténèbres. C'est ça le vrai problème. Jésus, pour montrer qu'il est Seigneur des Seigneurs, que ce titre, c'est normal qu'on le lui donne, il a commencé par affronter la colère de Dieu. Comment il a affronté la colère de Dieu? En prenant le péché de toute l'humanité, il a mis ça sur lui. De sorte que la colère de Dieu a été dirigé comme un faisceau sur lui seul, puisque il a pris le péché de tous, il a mis sur lui. Donc la colère de Dieu a été dirigée sur lui. Il a affronté ça à la croix. Et il a crié, « Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il a affronté la colère de Dieu. Mais il est allé jusqu'au bout de son sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est ça qui fait la force de Jésus. C'est pourquoi, depuis ce jour-là, son nom a été mis au-dessus de tout nom. La colère de Dieu, c'est le grand problème de l'univers. Vous savez, il y a un monsieur qui était un serviteur de Dieu, il s'appelait Élie. Il avait des enfants, il était le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef de tous les prêtres du temple de Jérusalem. Mais il avait des enfants impolis, des enfants malpropres, des enfants impurs qui outrageaient les gens qui venaient prier Dieu. Et Élie, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Il a dit à ses enfants, mes enfants, quand quelqu'un a un problème avec un autre humain, il y a Dieu qui peut intervenir. Mais quand tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Si la colère de Dieu est sur toi, qui va intervenir? C'est ça qu'il a dit à ses enfants. Mes enfants, qu'est-ce que vous faites là? Vous méprisez les sacrifices, vous salissez les sacrifices que les gens viennent apporter à Dieu. Vous créez un problème avec Dieu, mais en vous créant un problème avec Dieu, qui va vous sauver? Qui va intervenir? Donc le vrai problème de tout, bien-aimé, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Et Jésus devait d'abord affronter cette colère pour régler le problème de l'humanité, de l'univers. Il a affronté cela à la croix. Quand il a pris tous nos péchés, il a été frappé par la colère de Dieu à la croix en sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas Mohamed, ce ne sont pas nos ancêtres, ce n'est pas la science qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui a porté nos péchés. Il a affronté la colère de Dieu. L'explication, je la donne pour qu'on comprenne Apocalypse chapitre 5. Il y a un livre qu'on cherche à ouvrir, mais ce livre contient la colère de Dieu. Des sentences liées à la colère de Dieu contre l'univers, contre les humains, contre les démons, des sentences sont dans ce livre-là. Alors tout le monde a peur d'ouvrir ce livre. Pour ouvrir ce livre, il faut être prêt à faire face à cette colère. Et quand tu fais face à cette colère, tu tombes. Donc quand tu t'entends, vous savez quand Dieu a parlé, hein, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ont voulu entendre la voix de Dieu dans le livre d'Exode. Quand Dieu a commencé à parler, ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus entendre sa voix. Parce que la voix sortait avec sa justice. Et quand tu entends la justice de Dieu, tu trembles déjà parce que tu n'es pas au point. Tu sens la colère de Dieu dans sa justice, parce qu'il est contre le mal. Vous savez, même quand tu es en règle dans ton véhicule, mais quand tu vois un radar ou bien un policier, tu te réveilles, tu sursautes. Pourtant, tu es en règle. Parce qu'il y a l'élément justice qui est là. Le vrai problème, c'est la justice de Dieu qui va juger le mal. Et du coup, il y a un jugement qui est derrière tout ça. C'est ça le vrai problème. Et aucun ne pouvait régler ce problème-là. C'est ce qu'on va lire. J'explique afin que la lecture soit compréhensible. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 5. On cherche à ouvrir le livre de la colère de Dieu et il n'y a personne. Parce que tout le monde va être frappé par cette colère-là s'il l'ouvre. Même les anges de Dieu qui sont saints ne vont pas arriver à ouvrir ça parce que la puissance de cette colère était forte. Nous lisons.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Voilà, nous nous arrêtons là pour le moment. Alors, j'ai expliqué que c'est le livre de la colère de Dieu. Donc, l'ouvrir, c'est se donner l'opportunité de débattre de l'affaire. Donc, quand on ouvre une enveloppe étiquetée, c'est quoi ? Égalité, quand on a égalité, liberté, fraternité, je crois, on se dit, ah, peut-être ça doit être un excès de vitesse, ou bien je me suis garé mal quelque part. On hésite un peu à ouvrir l'enveloppe dès qu'on voit liberté, égalité, fraternité. Surtout si ce n'est pas avril, ou peut-être les impôts. Quand c'est septembre, octobre, tu te dis, mais quelle infraction ai-je commise ? C'est le cas de ce livre-là. Donc, pour l'ouvrir, c'est affronter la sentence qui est dedans. Donc, il n'y a eu personne pour ouvrir ça, parce que les gens sentaient, pressentaient la sentence, la colère de Dieu qu'il y a dans ce livre-là. Il n'y a eu personne. C'est pourquoi l'apôtre qui regardait ça a commencé à pleurer. Il a dit, qui regardait cette scène, il a commencé à pleurer. Il a dit, mais c'est fini pour nous. Il n'y a personne qui puisse ouvrir ce livre. Qui va débattre avec Dieu de notre sort, du sort de l'univers? Il n'y a personne. Bien-aimé, ne blaguez pas avec Dieu. Il y a des gens qui s'amusent. La colère de Dieu est grande. Il ne faut pas s'amuser. Nous venons de lire là. Il n'y a personne qui n'osait ouvrir, même pas les anges qui étaient propres. On pourrait comprendre que les gens pécheurs hésitent, mais là nous sommes dans une scène céleste. Les anges qui sont là-bas, à côté de Dieu, sont des anges propres. Mais ils ne pouvaient pas. Nous ne devons pas badiner avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas blaguer avec Dieu. Là, la scène que nous vivons, c'est une scène au ciel. Les gens tremblent. Pourquoi ces gens-là tremblent? Parce qu'ils connaissent Dieu. Vous, vous croyez qu'un enfant de 2 ans va avoir peur de l'enveloppe liberté, égalité, fraternité? Non. Il peut même utiliser ça pour colorier. Il peut déchirer. Mais c'est nous qui connaissons ce que peut contenir cette enveloppe-là qui tremblons de « Ah, peut-être quelqu'un fait l'excès de vitesse dans la maison ». Mais un enfant de 3 ans, ça lui importe peu, il l'ouvre, et il ne sait même pas peut-être lire. C'est l'inconscience qui fait qu'on sous-estime la colère de Dieu. Mais quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui voit combien... Vous avez vu Mohamed Amra, ça faisait longtemps qu'il était parti, mais le pays France l'a cherché jusqu'à le trouver. Qu'est-ce que la France gagne directement comme ça à trouver Mohamed Amra? Rien du tout. Ce qu'elle gagne, c'est d'appliquer la justice. Si des gens qui peuvent s'évader, faire partir, s'exiler en cavale pendant 15 ans, mais on finit par les retrouver par la France ou par les États-Unis, ce n'est pas parce qu'ils vont donner quelque chose aux États-Unis, ni donner quelque chose à la France. C'est la justice. Si la justice française est déjà aussi forte et dure, quelle serait la justice de Dieu? C'est pourquoi les gens tremblaient. Ils savaient que ce livre-là contenait la justice de Dieu. On ne peut pas toucher. Alors Jean, qui est là devant cette scène, il se dit, mais si personne ne débat avec Dieu de cette affaire, quel est notre sort? Et il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il y a une personne céleste qui vient le voir pour dire, écoute mon petit, ne pleure plus. Il y a un qui est capable de toucher ce livre-là. Parce que celui-là a triomphé de la colère de Dieu à la croix. C'est l'agneau de Dieu. Le titre le plus important de Jésus. L'agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. L'agneau de Dieu qui affronte la colère de Dieu et qui subit cette colère jusqu'au bout pour notre salut à vous et moi. C'est ça qui se passe. Il est écrit que l'agneau de Dieu... Au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lui, il a pris le livre. Il a pas eu peur. Il a pris le livre parce qu'il avait déjà payé pour les péchés des humains. Et il peut débattre avec Dieu de tout ça parce qu'il avait payé pour ça. Il a pris le livre. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants. Maintenant, c'est la joie dans l'univers. Quand il voit que quelqu'un discute avec Dieu, débat, affronte la colère de Dieu, triomphe de la colère de Dieu en prenant le livre. Alors, le monde céleste est en émoi, est en ébullition d'une joie extraordinaire. C'est ce qui est écrit là. Alors, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tout le monde est reconnaissant. Pourquoi nous servons Jésus? C'est parce que nous sommes reconnaissants. Quand tu réalises ce que nous sommes en train de lire, désormais toute ta vie, tu es reconnaissant. Il n'y avait personne pour te libérer. Parce que tout ce monde-là, les prophètes, les pasteurs, tout ce monde-là, les anciens, tout ce que vous voulez, ont leur propre péché. Et qui va te libérer? Et même un ange, c'est impossible, c'est ce qu'on vient de lire, même un ange ne pouvait pas prendre ce livre. Il n'y a qu'un seul, l'agneau de Dieu, parce qu'il a payé à la croix pour nos péchés. Et c'est ce que vont rappeler les êtres célestes. Verset 9, nous lisons maintenant le rappel. Il rappelle pourquoi ce monsieur a été capable d'affronter la colère de Dieu.
Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et il est
Donc, en affrontant la colère de Dieu, en payant pour nos péchés, il nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Et son acte était tellement beau, parfait devant Dieu. Dieu lui a donné tout pouvoir, de sorte que lui aussi, il accorde aux gens qu'il sauve, c'est-à-dire nous, les humains qui croient en lui, il leur accorde le pouvoir de régner sur terre. C'est écrit, « Et ils régneront sur la terre. » Verset 11 jusqu'au 14.
Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
Amen, amen. Voilà, il y a ébullition dans tout l'univers. Il est écrit que tout l'univers bouge. Parce que chaque créature ressent que cet acte-là, de prendre le livre de la colère de Dieu, c'est l'acte qui nous sauve, nous tous. Sans cet acte-là, il y aurait la désolation dans l'univers. Parce que la colère de Dieu allait s'abattre sur tout. Mais avec l'acte de la croix de Jésus, un jour nouveau est préparé et donné par Dieu où nous allons fleurir comme de belles fleurs. Et toute la création bouge. Je crois qu'il y avait une adoration que seul le Saint-Esprit peut contrôler, peut gérer. Aucun homme, aucun groupe ne peut gérer parce que chaque être veut dire quelque chose. Chaque être veut dire sa reconnaissance à l'agneau de Dieu. Et le Saint-Esprit qui canalise tout ça, ça sort en cette phrase, tu es digne, tu es digne. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Finalement, tout l'univers adore celui qui est assis sur le trône, le Père et le Fils, l'agneau de Dieu, à cause de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. C'est pourquoi, désormais, il est le Seigneur des Seigneurs. Dieu a placé son nom au-dessus de tout nom. Lisons encore un texte qui confirme ce que nous disons. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ensuite, nous irons dans Actes des Apôtres, chapitre 2.
Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Amen, amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi ? L'explication est donnée. Parce qu'il a accepté de venir en homme. Lui qui était... C'est écrit, hein ? Il vivait, il était Dieu. Il n'a pas cherché à se maintenir dans cet état-là indéfiniment. Il a accepté de s'humilier en venant comme un homme. C'est écrit. Et pire qu'un homme, qu'on crucifie comme un malfaiteur, tout ça à cause de nos péchés. Et Dieu, quand il voit l'acte de son fils, quand le Père voit l'acte de son fils, il met son nom au-dessus de tout nom. De sorte que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tous genoux, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Là, ça se fera ainsi qu'on le veuille ou pas. Un jour, que tu sois démon, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois sataniste, que tu sois perdu, tout genou fléchira devant lui. Mais ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est que de nous-mêmes, nous les humains, nous choisissions de nous incliner devant Jésus. Ne cherche pas à ce que lui te soumette un jour, parce qu'il va soumettre l'univers. Tout l'univers sera soumis par la puissance de Jésus. Il veut que, d'une manière volontaire, toi-même, tu te soumettes à lui pour échapper au jugement dernier. Comme un serviteur de Dieu a prêché, il a dit, aujourd'hui, ce que Dieu te fait, c'est une invitation. Si tu rejettes l'invitation, ça sera la convocation un jour pour le jugement. L'invitation est là. Soumets-toi de toi-même à Dieu. Il est ton chef, il est ton Seigneur. La preuve, c'est que tel qu'il a déterminé les choses, un jour nous mourrons tous.
La preuve, c'est que tu ne maîtrises rien de ce qui se passe sur la terre. Tu ne maîtrises rien. Personne ne maîtrise. Quand le Covid est venu, ça nous a surpris et nous vivions comme en prison dans nos maisons. Personne ne maîtrise quoi que ce soit. Personne n'a maîtrisé la venue rapide de la Deuxième Guerre mondiale ni de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les historiens, quand ils voient la Première Guerre mondiale, disent « mais c'était bête, on pouvait gérer ça autrement, pour cet incident-là de Sarajevo, où on tue l'archiduc là. C'était un incident gérable. » Mais les colères humaines se sont mêlées à l'affaire et nous avons abouti à la Première Guerre mondiale. Personne ne gère. Quand tu vois tout ça, tu reconnais que tu es petit, tu ne peux rien gérer. Dieu dit, alors viens chez moi, humilie-toi pour que moi je te gère. Je sois ton Seigneur, je sois ton Maître. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, un jour tu le feras, mais ça sera trop tard. Tu le feras dans la prison de feu éternel. Mais à quoi ça se servira ce jour-là ? À rien du tout, parce que tu resteras éternellement dans le feu. Alors que si tu le fais aujourd'hui, tu fais partie des enfants de Dieu désormais. Tu laisses Dieu être ton Seigneur et ton Maître. Nous venons de lire, Dieu a placé son nom au-dessus de tout nom. Tout le monde fléchira le genou. Tout le monde. Déjà, il n'y a que la mort qui soumet tout le monde. Quand on voit les Mohamed Ali, les Einstein, les Staline, les Hitler, ils sont morts. Déjà, rien que la mort les a soumis. Mais là, il est écrit que le nom de Jésus, c'est plus fort que même la mort. Ça, tout le monde sera soumis, même la mort sera soumise au nom de Jésus-Christ. Alors, autant dès aujourd'hui, de toi-même, venir à lui. Afin qu'il soit ton sauveur, et non pas ton juge plus tard, ton maître implacable plus tard. Aujourd'hui, veut être le maître bon, le Seigneur bon, qui te sauve en même temps. Le Seigneur est sauveur. Mais si il n'est pas ton Seigneur et ton sauveur, il sera juste ton Seigneur et ton juge plus tard. Mais il sera Seigneur de tout. Il est Seigneur dès maintenant et ça se manifestera clairement pour tout un jour. Mais il nous appelle aujourd'hui à être notre Seigneur. Et nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, parce que beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui a la vraie version. C'est Jésus seul qui a la vraie version. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination. C'est Jésus qui a la vraie version. Nous lisons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 24. On peut commencer au verset 22, hein, c'est mieux pour comprendre le contexte. 17, à partir du verset 22.
Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. »
Voilà. Paul arrive à Athènes, il voit qu'il y a des milliers de dieux, des statues. Il y a la religion. En fait, Athènes représente le monde. Dans ce monde, il y a des millions même de dieux, des millions de croyances. Il y a tout ça. Et les humains, et Paul dit, mais vous tâtonnez. Moi, je vais vous donner la vraie version. Voilà. Il va vous donner. Il va démontrer que sa version à lui, c'est la vraie version. Nous allons lire.
Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il...
Ce dont il a donné la preuve à tous en le ressuscitant des morts. Le frère Paul dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, eh bien, il a permis pendant un temps que nous soyons dans le tâtonnement pour manifester notre soif de le retrouver, puisque nous l'avions perdu quand notre père Adam avait péché dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a permis le tâtonnement. Mais il dit qu'aujourd'hui, c'est fini le tâtonnement. La vraie version, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, mais attention, il faut se repentir devant ce Jésus de nos péchés, parce que sinon, il va être un juge pour nous plus tard. Si nous ne nous repentons pas pour lui abandonner nos vies, de nos péchés pour lui abandonner ensuite nos vies, ben, il sera notre juge plus tard. Mais comment nous le savons, dit le frère Paul? Nous le savons parce qu'il est ressuscité. Il est le seul qui a triomphé de la mort. Il est vivant. Tout le reste est mort. Tous les autres dieux sont tombés. Il y a un seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Les dieux d'Athènes, le dieu de Grèce ne sont plus. Où sont-ils? Le dieu de Rome, Jupiter, Mars, tout ce que vous voulez, ils ne sont plus. Le dieu de Babylone, ils ne sont plus. Où est Mohamed? Dans le tombeau. Alors que lui-même, il avait dit que si quelqu'un est dans le mensonge, il mourra par une coupure d'aorte. Mais lui-même, quand il commença à mourir, il a dit, je sens comme s'il y avait une coupure de mon aorte. Donc, il a confessé lui-même qu'il était menteur. C'est fini pour lui. C'est fini pour Bouddha. Mais il y a un seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Où sont les scientifiques? Là, je vois encore qu'ils sont en train de proclamer, promulguer une nouvelle molécule antidouleur, comme si, et cette fois-ci, ça ne va pas avoir des conséquences, des effets secondaires. C'est comme si le problème de l'humanité était résolu. Rien n'est résolu. Ça fait des siècles qu'on proclame des découvertes. Quand on a découvert les transistors, c'est comme si le monde allait être, dans les années 50, le monde allait être changé complètement. Ça allait être la paix, la joie. Et aujourd'hui, nous voyons les guerres, nous voyons les maladies. Tout continue comme avant. Quand ils avaient trouvé l'énergie nucléaire, c'est comme si c'était réglé le problème d'énergie. Mais au contraire, vous voyez bien que tout a augmenté en prix. Le prix de l'énergie, ça a fait tuer les entreprises françaises. Vous voyez, donc, l'homme fait des proclamations, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. L'apôtre Paul dit, Jésus, lui, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. C'est ça la preuve qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'est ça la preuve. Il dit aux Athéniens, ne suivez pas n'importe quoi. Suivez celui qui va vous donner la vie éternelle. Puisque lui-même, il a vaincu la mort. Voilà. Nous continuons toujours. Hein. Nous avons commencé par la fin. Nous sommes en train de retourner en arrière où Jésus montre toujours sa seigneurie. La résurrection de Jésus, c'est ça qui montre sa seigneurie. Et quand on dit Seigneur, hein, il ne s'agit pas seulement de chef des humains, hein, ni d'animaux. Chef de tout, c'est-à-dire de molécules. Voilà, démonstration, Luc 7. Hein, non, commençons par l'histoire du péché, Marc 2, 1 à 10.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil.
Amen. Voilà, cet homme est paralysé, paralytique depuis des années et pas de solution. Les gens apprennent que Jésus est dans le coin. Ils ont appris que Jésus avait autorité sur le corps, sur les éléments. Ils se disent, Jésus peut guérir notre ami. Et ils ont tout fait jusqu'à creuser le toit d'autrui. Hein. C'est la maison qui appartient à quelqu'un d'autre. Eux, ils ont creusé le toit parce que la guérison de leur ami leur importait beaucoup. Vous comprenez, bien aimé, que le salut, ça ne se fait pas sans risque. Il y a des gens qui veulent servir Dieu dans une configuration sans risque, sans problème, sans embêter les gens. Mais c'est impossible. Parce que cet exemple nous montre que le salut passera par embêter d'autres personnes. Parce que quand vous creusez le toit d'autrui, c'est un problème que vous créez là. Mais la vie, le salut est plus important que tout ça. Et ils se sont permis ça. Et ils descendent le paralytique devant Jésus. Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors les autorités religieuses qui étaient là disent, mais attendez. Qui est-il pour pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Nous avions commencé par un texte. Hein, le deuxième texte, c'est Apocalypse 5, où vous avez vu que la colère de Dieu, il y a quelqu'un qui l'avait affronté. C'est qui ce quelqu'un-là? C'est celui-là qui était là, Jésus, l'agneau de Dieu. Et vous devez savoir, nous devons savoir que devant Dieu, il n'y a pas de temps. C'est nous qui connaissons le temps. Dieu n'a pas de temps. Et c'est que Jésus fait d'Apocalypse 5, c'est quelque chose d'éternel et ça avait déjà un effet au moment où il est sur terre. Et donc, Jésus dit, mais vous n'avez pas compris qui je suis. Je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis l'agneau de Dieu. J'ai pris les péchés des humains à la croix. Vous ne pouvez pas comprendre, mais pour que je vous aide à comprendre, je vais vous montrer que je suis Seigneur de tout. Mais entre nous, qu'est-ce qui est difficile? C'est de dire à ce monsieur, lève-toi et marche, ou bien tes péchés sont pardonnés. Au fond du cœur de ces gens-là, ça devait être ce qui est difficile, c'est de dire lève-toi et marche. Hein? Parce que quand on dit tes péchés sont pardonnés, qui peut avoir la preuve de ça? Personne ne peut avoir la preuve. Tout le monde peut dire, raconter ça. Aujourd'hui, tout le monde raconte des bêtises, surtout quand il s'agit de prophéties lointaines. Tout le monde dit n'importe quoi, puisqu'on ne peut pas vérifier le lendemain. Mais quelqu'un dise devant tout le monde, lève-toi et marche, là, ça c'est autre chose, puisqu'on peut vérifier à l'instant que ça s'est accompli ou pas. Il dit, qu'est-ce qui est difficile? Il savait qu'au fond d'eux, ce qui était difficile, c'est de dire, lève-toi et marche. Il dit, je vais faire l'un pour vous prouver que j'ai le droit de l'autre.
Si je peux commander aux molécules, à son corps de se réorganiser et de marcher, donc je peux commander aussi au péché de s'en aller de cet homme. Il dit, monsieur, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé, il a marché. Jésus a montré par là qu'il était seigneur de tout. D'abord, du problème de péché. Jésus-Christ règle le problème, parce que le plus important, c'est le problème du péché. Il a réglé ça, il est seigneur. Il peut pardonner. Ouais, c'est là qu'il dit même, plus quand nous allons lire un autre passage, il dit, mais je vous donne le pouvoir, mais le pouvoir que nous donne est immense, même du pardon des péchés, par le discernement du Saint-Esprit. Il dit, ceux à qui vous remettrez le péché, il leur sera remis. C'est parce que c'est un pouvoir total qu'il a. Il a le pouvoir sur le mal, sur le péché, il a le pouvoir sur tout l'univers. Et nous avons lu l'Apocalypse, tu as fait un peuple, un nouveau peuple de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Donc avec les mêmes pouvoirs que lui, mais conduit, bien sûr, puisqu'il est notre Seigneur, son esprit nous conduit. Nous nous soumettons à son esprit. Et ce jour-là, il a démontré qu'il était Seigneur sur le mal, sur le péché, qu'il pouvait pardonner n'importe qui. Et il pouvait guérir n'importe qui. Nous continuons dans la compréhension, Luc 7, 1 à 10, un passage que beaucoup vont se fatiguer d'écouter, mais pour moi, ce sont des passages fondamentaux qui montrent qui est Jésus. Luc 7, 1 à 10.
Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela ». Car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade.
Amen, amen. Cet homme a compris qui était Jésus. Il a dit, « De même que moi je suis seigneur de mes soldats, toi tu es le seigneur de tout. » Moi, je donne des ordres à mes soldats, mais toi, tu peux donner des ordres aux microbes qui sont dans mon serviteur. Ils vont être morts, ils vont s'en aller. Tu peux donner des ordres aux molécules qui se sont désagrégées pour se reconstituer, de sorte que mon serviteur soit guéri. Tu n'as pas besoin de venir jusqu'à ce moi. Seigneur, donne seulement l'ordre. Tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est ce qui est Jésus. Et que cet homme avait compris. Jésus a dit, même en Israël, personne ne m'a compris comme cet homme. C'est ce que Jésus veut que nous comprenions. Mais non seulement que Jésus est Seigneur, son nom a été placé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi dans Marc 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Parce que son nom, c'est le nom de Seigneur des Seigneurs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, quand l'apôtre Paul a guéri un infirme, il dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'est notre sainteté ou notre puissance qui a guéri cet homme? Pas du tout. C'est la foi dans le nom de Jésus. C'est ce nom, la foi dans ce nom-là qui a guéri cet homme-là. C'est le nom de Jésus, puisque le nom de Jésus, c'est le nom du Seigneur des Seigneurs. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Que ce soit le péché, que ce soit l'addiction, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que cet homme centenier avait compris. Il a dit, dis seulement un mot, la chose s'en va. Il y a une dame qui était maltraitée par son mari. Des années durant, il était alcoolique. Dès qu'il franchissait le seuil de la maison, il l'a frappée. Et entre-temps, elle est devenue enfant de Dieu chrétienne. Et puis, en lisant la parole, en écoutant les messages, il a compris la seigneurie du Seigneur. Il a dit, mais elle a compris la seigneurie du Seigneur. Et s'est dit, mais si Jésus est Seigneur, il est Seigneur également de l'alcoolisme de mon mari. Elle a dit, je vais prier, je ne vais plus manger, je vais prier, jeûner, jusqu'à ce que je vois ce miracle-là. Et le cinquième jour, son mari est revenu à la maison, libéré complètement. Libéré, il n'a plus touché à l'alcool. Par la puissance de Jésus. Il est Seigneur de tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ses élus, avec les gens qui croient en lui? Lisons Luc 10, 17 à 19. Luc 10, 17 à 19.
Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Amen. Alors il a envoyé ses disciples en mission, et pendant qu'il faisait la mission, pendant qu'il pratiquait les instructions, les conseils de Jésus, il voit les gens sont guéris, les démons sont chassés, ils sont revenus de Jésus, mais c'est extraordinaire. Même les démons obéissaient quand on parlait. Jésus dit, mais vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Je suis le Seigneur de tout ça. Donc quand vous parlez à mon nom, ces gens-là savent que c'est moi le maître qui vous a dit. Et ils fuient. Ils obéissent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que moi, j'ai tout pouvoir. Je suis Seigneur des Seigneurs. J'ai tout pouvoir. Et nous clôturons avec Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Il redit encore qu'il est Seigneur de tout. Allez dire à tout homme qu'il doit s'incliner devant moi. Sinon, il s'inclinera de toute façon, mais je serai son juge. Aujourd'hui, il peut s'incliner pour être sauvé. Mais un jour, tout le monde s'inclinera, mais ça sera dur. Matthieu 28, 18 à 20.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Amen. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. J'ai tout pouvoir et je vous donne ce pouvoir-là et je vous accompagne dans ce pouvoir pour convaincre les humains partout dans le monde. Jésus et Seigneur des Seigneurs. Ne nous laissons intimider par personne. Là où même on pense que l'évangile ne peut pas entrer, on se trompe. On se trompe. L'évangile est entré,
dans les endroits les plus difficiles. Parce que Jésus est Seigneur. Devant lui, tout genou fléchit. Je reçuis encore le témoignage d'Esther Gulshan. Elle était pakistanaise. Fille d'imam, hein, d'une autorité religieuse, hyper riche. Qui pouvait penser que Jésus entre dans cette famille? Mais elle était infirme. Depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, et son père et sa mère étaient déjà mortes, et son père s'est dit vers l'âge de 15 ans, 14 ans, je l'amène en Angleterre, peut-être un médecin peut faire une opération pour qu'elle retrouve l'usage de ses membres. Arrivé en Angleterre, le médecin a dit, je ne peux rien pour vous, peut-être Dieu seul peut faire quelque chose. Ce musulman s'est dit, mais quoi, c'est de ces gens-là, les impurs chrétiens qui vont me dire qui est Dieu. C'est pas à lui de me dire d'aller vers Dieu, nous-mêmes nous avons notre Dieu. Il est parti à la Mecque. Il a fait toutes les cérémonies, il a payé toute la quantité de moutons demandés là-bas. Parce que vous savez, faut savoir qu'il n'y a pas que la cérémonie idolâtrique de tourner autour de la pierre noire, cette idole. Mais il y a aussi d'autres cérémonies, courir entre deux villes, payer un certain nombre de moutons, frapper un certain géant avec des cailloux comme qui symbolise Goliath. Il y a plusieurs cérémonies, il a fait toutes ces cérémonies, boire l'eau de la source Zamzam, il a fait tout ça. Sa fille n'était pas guérie. Et quand il rentre, quelques années plus tard, hein, quelques années vraiment, peut-être 2 ans, il meurt. Et Gulshan, qui n'avait que son père comme famille à la maison, parce que ses frères étaient déjà partis, et il s'était marié ainsi que sa sœur, elle se retrouve dans la désolation totale. Même si elle était hyper riche, son père lui avait laissé beaucoup. Mais l'infirmité, vous savez, c'est ça la limite de l'homme. Tu es riche, mais tu es infirme. Tu es riche, mais tu dépends de la cocaïne. Tu es riche, mais tu as des problèmes de couple. Tu es riche, mais ça ne va pas. Et elle était riche, mais elle était infirme. Alors, elle a parlé à Dieu directement. Elle a dit, je suis née pratiquement infirme et tu as pris ma mère très tôt. Aujourd'hui, tu prends mon père. À quoi ça sert que je vive? Prends-moi. Ça ne sert à rien de me laisser ici. Et c'est là qu'elle entend la voix du Seigneur des Seigneurs qui lui pose la question, qui c'est qui guérit les aveugles? Qui c'est qui donne l'ouïe aux sourds? Qui c'est qui fait marcher les paralytiques? Je suis Jésus. Tu peux voir, fils de Myriam, tu peux voir dans le Coran, on parle de moi. Elle s'est acheté un Coran dans la langue pakistanaise, en ourdou. Elle a commencé à lire. Parce qu'un des problèmes de l'islam, c'est que c'est censé être fait en arabe, toute prière et lecture, mais malheureusement, les gens ne connaissent pas l'arabe. Bon, c'est un dieu vraiment qui bloque tout. Et elle a dû lire en ourdou. Et elle a, pendant 3 ans, prié Jésus, le prophète qui guérit, puisque c'est ce qui est dit dans le Coran. Et la 3e année, il n'y avait toujours pas de guérison. Alors elle a dit, Jésus, si tu ne veux pas me guérir. Une nuit vers 4 du matin, elle était dépitée. Elle a dit, Jésus, si tu ne veux pas me guérir, dis-le-moi. Parce qu'elle était déjà convaincue qu'il peut, puisque la voix lui avait dit, je suis celui qui fait ça. Donc si tu ne veux pas, dis-le-moi. C'est en ce moment qu'une grande lumière est entrée dans sa chambre, et il a vu 13 personnes, une personne au milieu et 6 de part et d'autre. Et la personne du milieu a commencé à lui parler, c'était Jésus lui-même. Il a dit, lève-toi et marche. Il dit, mais je ne peux pas. Jésus lui a dit encore, lève-toi et marche. Elle a fini par se lever. Au fait, ses membres ont grossi. Donc, elle était, vous savez, quand quelqu'un n'utilise pas ses membres, ça devient filiforme. Ben, ça a grossi. Sa robe qui était verte, elle est devenue blanche définitivement par la lumière du Seigneur. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis venu sauver toute l'humanité. Désormais, tu dois croire en moi et me suivre. Et Jésus lui a donné la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est comme ça que tu devrais prier. Et quelques temps plus tard, vers 5 heures du matin, la gouvernante qui était sa tante en même temps, entend quelqu'un marcher dans la chambre de Gulshan. Elle crie, mais qui est dans ta chambre, Gulshan? Elle dit, mais c'est moi, Tati, je marche. Oh, elle avait peur d'ouvrir. Elle dit, mais c'est impossible, tu ne peux pas marcher. C'est moi. Elle a fini par ouvrir pour faire entrer sa tante. Elle a expliqué tout à sa tante. Sa tante a dit, c'est bien que Dieu t'ait guéri, mais ne dis pas que c'est Jésus, parce que tes frères vont te tuer. Quand ils vont venir, ne dis pas que c'est Jésus. Mais elle a dit, Tati, c'est Jésus qui m'a guéri, comment je vais dire que ce n'est pas lui? Alors tout le village est venu célébrer sa guérison. Et elle disait à tout le monde, c'est Jésus qui a fait ça, c'est Jésus. Vous savez, Jésus va s'imposer n'importe où. C'est des endroits où il n'y a pas un chrétien à 50 kilomètres. Il n'y en a pas un seul. Mais c'est là que Jésus va faire les affaires. Il n'a peur de personne. C'est lui le Seigneur. C'est nous qui avons peur. Lui n'a pas peur. Et un jour, il rencontre un chrétien qui n'a pas peur. Il va l'utiliser de sorte que là où on pensait qu'on ne puisse pas parler de lui, on va parler de lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et ses frères sont venus, elle a affirmé que c'était Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas connu comme persécution? Mais elle a continué à affirmer que c'est Jésus qui l'avait guéri, c'était lui le Seigneur des Seigneurs. Un jour, son grand frère aîné l'a mené dans la cave. Elle était chez son petit frère, chez son frère, grand frère en second, et l'autre, l'aîné, est venu. Il l'a entraîné dans la cave, il a sorti l'arme. Et elle a dit, Seigneur, merci de me prendre avec toi. Mais elle a dit à son frère, je ne peux pas renier Jésus, c'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui m'a guéri. Elle a attendu 15 minutes, elle ne mourait toujours pas. Quand elle ouvre les yeux, elle voit que la main de Jésus fermait l'ouverture du revolver. Et aucune balle ne sortait. Et son frère l'a chassé. Bien-aimé Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Mais il nous demande de nous soumettre à lui, de nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, laisse Jésus être ton chef dans tous les domaines. Mets l'orgueil de côté. Mets ton moi de côté. Dis Seigneur, me voici. Je veux expérimenter ta seigneurie en commençant par me soumettre moi-même. Beaucoup veulent expérimenter la seigneurie de Jésus sur les autres. Mais Jésus veut d'abord lui être notre Seigneur. Il a dit à son apôtre Pierre, qui a fait le miracle, le premier miracle, après la Pentecôte, il a dit, quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. La maturité, c'est que c'est Jésus qui soit notre Seigneur. Trop d'indépendance dans la vie chrétienne diminue la seigneurie de Jésus dans l'atmosphère. Mais là où Jésus est seigneur dans la vie de quelqu'un, ça rayonne. Ça rayonne. Il rayonne. Cette personne rayonne. Gulshan a rayonné. Je veux pas raconter tout ce que Dieu a fait à travers elle. Parce qu'elle avait, elle savait au fond d'elle que Jésus était seigneur. Elle a renoncé à tout l'héritage familial des millions. Elle a renoncé à ça. Pendant 20 ans, elle n'avait jamais lavé une assiette. Mais elle a commencé à en laver. Elle a dormi parfois dehors à cause de la seigneurie de Jésus-Christ. Mais je peux vous dire que Dieu a fait de grandes choses avec elle. Là où Jésus est Seigneur, sa seigneurie se manifeste glorieusement. Mais je vais parler aussi à ceux qui vivent sans Jésus. C'est le moment de venir à Jésus. Parce qu'après, ça sera trop tard. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur, mais ça sera comme juge, ça sera trop tard. Jésus-Christ est Seigneur. N'ayons plus peur. Jésus est Seigneur, alléluia. Même dans les endroits les plus obscurs, il est Seigneur, alors n'hésitons pas à nous laisser utiliser par lui. Ne doutons plus. Nous allons faire la prière suivante. Seigneur Jésus, je me confie en toi. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Prends le contrôle de toute ma vie. Règne en moi, afin que moi je règne avec toi sur tout l'univers. Merci Jésus. Amen. Et pour ceux qui ont fait cette prière, qui ne sont pas encore baptisés, il faut le faire. Ça fait partie des instructions qui montrent que Jésus est Seigneur. Quand il dit, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, se soumettre à Dieu également et suivre son chemin. Maintenant, nous allons prier. Nous avons dit que le Seigneur est Seigneur de tout. Pendant que la musique continue comme ça, tu vas prier, mais si tu n'as même pas la force de prier, pense seulement à un blocage, à un problème. Et avec l'autorité du Saint-Esprit, moi je vais chasser tout et ça va partir au nom de Jésus-Christ. Voilà. Seigneur, tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Apocalypse 5, il est dit que les sacrificateurs régneront avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de mort. Sortez de ce lieu, esprit de mort, sortez de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Esprit de peur, dehors. Esprit de peur, dehors. Esprit de doute, dehors. Les démons nous sont soumis. Vous vous soumettez et vous lâchez prise. Esprit des ancêtres, dehors. Esprit de maman, dehors au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie, de surdité, de cécité, dehors au nom de Jésus-Christ. L'hypertension, le diabète, le cancer, dehors au nom de Jésus-Christ. Esprit de colère, dehors au nom de Jésus-Christ. Vous m'entendez, toute force opposée à l'évangile, notamment en France, administration, cartésianisme, franc-maçonnerie, dehors, vous êtes vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la libération totale de chacun d'entre nous. Tout ce qui est héritage satanique familial est détruit. Au nom de Jésus-Christ, esprit de douleur, dehors au nom de Jésus-Christ. Problème dans les os, dehors. Nous avons l'autorité sur tout. Je proclame cela maintenant. Que les os soient rafraîchis. Que les nerfs fonctionnent correctement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. De libérer de l'esprit d'avarice et de l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance que tu opères. Merci pour la délivrance que tu opères, Seigneur.
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant, tout genou, tout genou. Tout le confessera que Jésus.
Alléluia, je soumets toute maladie, tout esprit démoniaque au nom de Jésus. Ils sont vaincus ce matin, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, chez les bien-aimés qui suivent. Merci Seigneur de libérer dans les maisons, Seigneur. Dans les maisons, les esprits qui rendaient captifs les personnes, les apparitions nocturnes, sont vaincus au nom de Jésus. La Seigneurie de Jésus se manifeste. Et je viens en particulier prier, Seigneur, pour ce temps difficile dans le monde entier, Seigneur, où ton nom est bafoué. Seigneur, je prie que se lèvent de vrais serviteurs qui vont annoncer que seul Jésus est Seigneur. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un système, c'est toi Jésus qui sauve. C'est toi le Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.